Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, quatrième de la saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Et bonjour Jean-Louis Cosinus.
Bonjour Jean-Claude.
Vous êtes aujourd'hui Jean-Louis Cosinus, notre invité. Vous êtes président du Racing Club Narbonne Méditerranée Association. On reviendra bien en détail et vous nous expliquerez tous les tenants et les aboutissants, ce que ça veut dire, puisque le Narbonnais moyen n'est peut-être pas forcément au fait de toutes ces subtilités et ces distinctions. Bien entendu, je rappelle aussi, Jean-Louis, que selon la règle de cette émission, si vous voulez participer à un moment avec Michel Santo à nos contre-regards, vous êtes tout à fait autorisé à le faire. Mais c'est la troisième partie qui vous sera consacrée entièrement, celle donc de l'invité sur une interview de vos activités, de vos responsabilités. Le sommaire, eh bien, on va commencer par un théâtre de Narbonne qui recrute, ce qui est banal en quelque sorte. Mais oui. Michel, tu as posé ton contre-regard là-dessus parce qu'il y a quand même dans ce recrutement des choses ultra cocasses.
Oui.
Nous enchaînerons avec la ligne TGV. Alors non pas le chaînon manquant dont on parle depuis 25 ans chez nous, mais un chaînon qui apparaît tout d'un coup à l'ouest,
hein,
et qui te surprend, et qui surprend surtout ta sagacité en matière de, comment dire, de déblocage de financement au niveau gouvernemental.
Oui.
C'est bien ça, Michel. Mmh, tu vas nous expliquer en détail.
Très rapidement.
Ensuite, eh bien, nous reviendrons sur une interview qui est parue cette semaine dans le journal L'Indépendant du maire de Narbonne, Didier Mouly.
On ne peut pas ne pas en parler, oui.
Bien sûr, avec un certain nombre de choses qui nous ont semblé, toujours pareil, nous posons nos terribles contre-regards sur un texte qui, à première vue, semblait peut-être ordinaire, mais qui ne l'est pas du tout. En tout cas, c'est notre point de vue. Nous enchaînerons avec ce qui a donné matière à un billet dans la semaine sur ton blog, Michel, la polémique surtout concernant les Harkis et la mairie de Narbonne, concernant la venue de M. Ménard, le maire de Béziers, qui avait été invité par ces Harkis narbonnais. Et puis, nous conclurons sur la création d'un futur groupe à l'agglo de Narbonne, au Grand Narbonne, d'un futur groupe divers gauche, puisqu'il y en a un qui est prévu sous la présidence d'Henri Martin, le maire de la Nouvelle.
C'est ça, il y en a un qui existe déjà.
Voilà, qui sera, lui, divers droite et non inscrit. Indépendant. Bien, alors nous commençons tout de suite par ce fameux recrutement qui t'a inspiré un billet courroucé, je dirais presque, Michel.
Oh, courroucé, c'est un peu excessif, mais disons que cette affaire-là, qui peut paraître bénigne, banale, est tout à fait révélatrice de ce qui se passe aujourd'hui dans les relations entre différentes collectivités locales et dans un contexte pourtant, en fait, où la loi dite nôtre de réforme territoriale prétendait vouloir clarifier justement les relations entre les différents niveaux territoriaux.
Or, la clarification, c'est 6 exemplaires.
Alors, la clarification en l'espèce, là, je vais très rapidement en parler, c'est carrément l'opacité et la plus totale. Enfin, on ne sait plus très bien qui fait quoi dans cette affaire-là, puisque l'association gestionnaire du théâtre, c'est une association qui gère le théâtre.
Scène nationale. Du fait du label Scène nationale.
Qui est un label national, ce qui veut dire que le théâtre ne peut pas produire, en fait, et proposer dans son programme n'importe quel et n'importe quoi. Il est obligé de suivre un cahier des charges extrêmement strict qui lui est imposé par l'État, et c'est bien naturel. L'État, en compensation, évidemment, attribue une subvention à l'association en question. Je rappelle aussi que le théâtre est de compétence, Grand Narbonne. Donc Grand Narbonne a la compétence en matière pour le théâtre scène nationale. Mais la gestion, l'exploitation est assurée par une association. Donc le Grand Narbonne est le principal financeur de cette affaire-là.
Oui, mais subventionne à hauteur de grosso modo 1 million, je crois, par an, cet ordre-là.
C'est exact. Et dans ce contexte-là, j'apprends en lisant la presse que le président de l'association, qui est sous tutelle du Grand Narbonne quand même, avait adressé et avait mis, fait, sur le marché un appel à concurrence pour recruter le directeur qui à venir, puisque Dominique Bassadeau est parti. Et là, surprise, en lisant cet appel à candidature, je constate que cet appel à candidature précise que les demandes doivent être adressées obligatoirement à l'État, à la Direction régionale de l'action culturelle de l'État en Languedoc-Roussillon, au Conseil général, au Conseil régional, au Grand Narbonne. Et j'en oublie ça. Et au Conseil général.
Et il en faut 6.
Il en faut 6. À 6 destinataires. 6 destinataires qui vont recevoir obligatoirement la demande de candidature.
Oui, Ubu n'est pas
totalement
mort.
Totalement. Hein, dans un contexte, encore une fois, j'y reviens, hein, où l'État ne cesse de dire « je vais clarifier les relations entre les différentes collectivités ». Et là, dans les faits, qu'est-ce que l'on nous démontre ? L'on nous démontre que il y a 6 partenaires, 6 des responsables d'une structure qui s'appelle le Théâtre Scène Nationale, et qu'il faut, pour le futur directeur, adresser et donc passer devant une espèce de comité de pilotage dans chacune des structures où les candidatures seront examinées. Je trouve ça, non seulement contre-productif, mais surtout, du point de vue de la clarification, mais surtout, propice à toutes les,
les manœuvres.
Moi,
j'allais dire magouille carrément.
C'est un terme qui venait spontanément, à mes lèvres, mais comme je ne suis pas du genre à utiliser ce genre de vocabulaire, j'ai un peu hésité.
C'est pour ça manœuvre, qu'on le relativise.
On imagine d'ici, les coups de fil passés entre le département, la région, la DRAC, la Direction générale culturelle, le Jacques Bascou, le responsable des théâtres au niveau national, celui-là, peut-être que...
Non, plus la rapidité d'exécution du choix.
Indépendamment, effectivement, de la rapidité de la décision. Donc, je trouve ça tout à fait anormal. Il eût été tout à fait simple et responsable de prendre acte du fait que la seule structure qui gérait le théâtre était effectivement l'association sous tutelle du Grand Narbonne, quitte après, effectivement, à ce que le Grand Narbonne en question réunisse, au moment de la sélection de cette personne, un comité de candidature associant tous les partenaires financiers. Là, au moins, c'eût été parfaitement clair et parfaitement simple, clair, net et rigoureux du point de vue à la fois de la procédure et du point de vue de la clarification de qui fait quoi et de qui est responsable de qui.
Eh bien, hélas, ça ne le sera pas. La ligne TGV de l'Ouest, c'est-à-dire la Bordeaux-Toulouse, tout d'un coup ressort.
Oui, alors là, quand même, un secrétaire d'État, M. Alain Vidaliès, secrétaire d'État au transport, à la mer et à la pêche, à l'occasion d'une fête de la Rose dans un village dont j'ai perdu le nom, du côté de dans les Landes.
L'essentiel, c'était la fête de la Rose, quand même.
Fait l'annonce suivante, le gouvernement a acté la réalisation du tronçon Bordeaux-Toulouse-Dax pour la ligne TGV. Et les médias, dans la foulée, mais alors à une vitesse, un raz-de-marée médiatique, qui reprennent exactement cette information,
sans aucun
contre-regard critique. Première remarque, une annonce faite à l'occasion des fêtes de la Rose. Ce qui veut dire que c'est en pleine campagne électorale et qu'il ne faut pas déconnecter, évidemment. Si je peux utiliser l'expression de connecter, cette annonce des futures régionales qui arrivent.
Bien entendu, des enjeux électoraux.
Deuxième remarque, M. Alain Vidaliès, avant d'être secrétaire d'État, était député des Landes. Donc directement concerné avec ses amis par effectivement cette
annonce. On n'est jamais si bien servi que par soi-même.
Troisième remarque, la commission d'enquête publique a donné un avis défavorable sur ce tronçon. Pour des raisons d'ordre environnemental et financier.
Et puis il y a le côté finance, 8 milliards.
Quatrième contre-regard, la Chambre régionale des comptes a fait un rapport explosif sur le sujet, en faisant la démonstration que les lignes TGV aujourd'hui étaient passées d'un taux de marge de 27% à 12%. Cinquième remarque, même Chambre régionale des comptes qui fait observer que l'endettement de Réseau ferré de France et de la SNCF cumulé, c'était 44 milliards d'euros. Enfin, remarque, si je puis dire, les caisses de l'État
et
les caisses de collectivités locales sont vides. Question, comment fait-on pour financer un investissement de 8 milliards d'euros estimé aujourd'hui qui serait réalisé, conditionnel, en 2025. Et pendant ce temps, nos élus de la région, qui ont fait le tour de toutes les villes de cette région il y a encore pas très longtemps, en proposant des gares omnibus à Narbonne, à Perpignan, à Béziers, à Montpellier, à Nîmes. C'est-à-dire que le TGV, ce sera une Micheline, si je puis dire. Eux ben, ils restent avec leur chaînon manquant qui est reporté au calendrier grec, c'est-à-dire après 2025, 2030, 2040, 2050.
Voilà. Alors comment financer tout ça ? Eh bien, on a le temps d'y réfléchir. On marque une première pause publicitaire.